Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hisse la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward.
Tout le monde est à son poste ?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
C'est peut-être le plus grand drame de l'immigration de ce début de siècle. Ce week-end, 400 migrants partis de Libye ont péri dans un détroit de Sicile. Après un jour et une nuit en mer, entassés sans eau ni nourriture, nous étions désespérés. Quand nous avons aperçu le bateau des gardes-côtes, des passagers ont commencé à s'agiter. Malgré les appels au calme, leurs mouvements ont fait se retourner l'embarcation. J'ai vu des dizaines d'enfants disparaître dans l'eau. C'est l'un des témoignages que l'on peut lire aujourd'hui, celui d'une survivante rapportée par Libération. ANSA, l'agence de presse italienne, en livre un autre. Ce rescapé raconte les conditions avant l'embarquement. Nous étions parqués depuis 4 mois dans une usine de sardines dans les environs de Tripoli. Nous étions plus de 1000, nous mangions une seule fois par jour. Il est, parmi ces immigrés qui ont traversé les mers sur des radeaux de fortune, des invisibles qui se retrouvent ici, à Angers, aérés toute la journée, voire toute la nuit, faute de place au 115. Le 115 qui, rappelons-le, consiste en des algécos parqués dans un coin de la ville et que les occupants doivent quitter dès 7h du matin sans petit déjeuner bien sûr, hiver comme été, été comme hiver. Des conditions d'accueil déplorables pour des gens qui ont traversé les mers pour fuir l'horreur de leur pays.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, nous recevrons Charles Pringuet. Le jeune artiste breton est en résidence à Saint-Mathurin au mois d'avril. Ce sera juste après à la chronique Vigie de Pierre-Antoine, oui c'est bien ça, qui décortique les chiffres et les passe à la moulinette les propos de nos hommes et femmes politiques. En fin d'émission, Julia vous livrera son billet d'humeur, mais d'abord, au mois de mai, à Saint-Sylvain d'Anjou s'ouvrira la cité des objets connectés. Pourquoi faire ? Qu'est-ce que c'est que cette cité ? Angers va-t-elle devenir un pôle de compétitivité de l'électronique grâce à elle? Et d'abord, c'est quoi un objet connecté?
C'est une mallette noire en cuir avec 20 cartouches servant de munitions, là et là. Ôtez la capsule et vous trouverez les munitions à l'intérieur. Sur le côté, ici, un poignard sort au déclic, pressez ce bouton là, et le poignard jaillit. À l'intérieur de la mallette, vous trouverez un fusil pliant automatique pour tireur d'élite, calibre 6.5 avec un viseur télescopique infrarouge. Puis, si vous tirez ces courroies, à l'intérieur, il y a 50 souverains en or, 25 de chaque côté. Faites bien attention maintenant. C'est une boîte de talc ordinaire. À l'intérieur, une cartouche de gaz lacrymogène. Ça vient à cet endroit sur le côté, là, comme ça. C'est aimanté, ça ne tombe pas. Fermez la mallette. On l'ouvre normalement de cette façon, en déplaçant les serrures sur le côté. Si vous faites ça, la cartouche vous explosera au visage.
Et finalement, si c'était James Bond qui avait inventé les premiers objets connectés. Bonjour Philippe Ménard.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de cette cité des objets connectés. Peut-être que pour commencer, on peut définir ce que c'est qu'un objet connecté. Selon le Wiktionnaire, notre ami à tous, c'est un objet électronique connecté sans fil et partageant des informations avec un ordinateur, une tablette électronique ou un autre appareil. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec cette définition ?
Plutôt d'accord avec cette définition, tout à fait, oui. On peut dire que c'est un objet connecté. Finalement, c'est un objet qui va apporter des services aux personnes, avant tout. Et ensuite, sa définition, c'est un objet électronique qui a donc de l'intelligence et qui va communiquer avec d'autres objets ou avec des tablettes ou des personnes.
Peut-être on peut donner quelques exemples d'objets connectés qui font déjà partie de notre quotidien.
Alors, on connaît tous déjà les montres connectées, les bracelets connectés qui surveillent le nombre de pas qu'on fait dans la journée, qui surveillent notre activité la nuit aussi, qui indique si on dort d'un sommeil profond, d'un sommeil léger, etc. On connaît aussi peut-être les balances connectées et qui, connectées en fait à la montre connectée, vont pouvoir indiquer si on a suffisamment marché et si le poids derrière a suivi. Donc c'est voilà, c'est des petits exemples classiques, on va dire. Mais il y a beaucoup d'autres possibilités, bien sûr.
Alors la Cité des objets connectés verra donc le jour en mai à Saint-Sylvain-d'Anjou. À l'origine, on trouve Arnaud Montebourg qui, avant d'être un frondeur, a, souvenez-vous, porté des marinières et était ministre du redressement productif. Et il y a un an et demi, il a lancé la Nouvelle France industrielle, un programme qui comporte 34 projets. Objectif, et là je sors mes guillemets, hisser au meilleur niveau de la compétitivité mondiale les filières les plus prometteuses de la France et réinventer son récit industriel. Rien que ça. Communication quand tu nous tiens. Parmi ces filières, on notera l'hôpital numérique, le TGV du futur, les supercalculateurs et les objets connectés. Philippe Ménard, ça veut dire quoi, réinventer le récit industriel de la France?
Alors, je crois qu'au départ, l'idée, en fait, c'était effectivement de redynamiser le territoire, de redonner à ce territoire français qui dispose de beaucoup d'atouts, de beaucoup de richesses, de lui redonner, en fait, un territoire industriel, une activité de développement et d'innovation. Et le projet Objet Connecté, qui a été donc, comme vous le dites, initié par Arnaud Montebourg fin 2013, est l'un de ces 34 projets qui va permettre justement de recréer de l'activité, de recréer de l'emploi et de redynamiser le territoire français.
Quentin ? Alors, oui, on va... Ouais, ton micro est allumé.
Alors, pourquoi avoir choisi la ville d'Angers comme... comme ville-mère pour ce projet qu'est la Cité des objets connectés?
Alors, au départ, le projet donc, est porté et lancé par le gouvernement. Et deux personnes s'intéressent de très près à ce projet. Éric Carrel, qui est le fondateur de la société de l'entreprise WeThings, donc qui est un des leaders objets connectés en France. Et puis une personne qui s'appelle Thierry Sachaud, qui est le président de la Cité de l'objet connecté et qui est aussi le directeur général d'Eolan. Et Eolan, c'est une entreprise en fait qui est très ancrée dans le territoire angevin. Donc ces deux personnes, au départ, le chef de file du projet et Thierry Sachaud, décident finalement de pousser la candidature d'Angers pour devenir la ville de l'objet connecté. Et il se trouve que Angers, c'est une ville qui a un historique très, très conséquent, très important en termes d'électronique. Pour ceux qui se souviennent, Angers, ça a été donc une ville qui a porté, qui a hébergé Technicolor, Thomson, qui a hébergé Bull, qui a hébergé Motorola. Donc on a tout un terroir, tout un historique électronique. On a aussi beaucoup d'écoles à Angers. C'est une ville étudiante avec des universités, des grandes écoles. Donc tout ça fait que Angers, finalement, c'est une ville pertinente pour recevoir la Cité de l'objet connecté. On n'est pas très loin de Paris. On est à 1h30 de Paris en TGV. Donc finalement, ça paraît tout à fait logique. Et la candidature qui a été poussée de manière très, très forte par ces deux personnes a été retenue et donc Angers est devenue la ville de la Cité de l'objet connecté.
Et en quoi va-t-elle consister donc cette cité?
Alors cette cité, pour essayer de la décrire simplement et rapidement, bon déjà c'est un lieu, donc c'est un espace qui va être positionné dans un grand centre industriel. C'est un lieu d'environ 3500 mètres carrés sur un lieu d'environ 9000 mètres carrés. Et sur cet espace, on va créer ce que nous on appelle un accélérateur industriel. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de matières grises, beaucoup d'ingénieurs français qui ont des tas d'idées, qui ont des tas de projets sur les objets connectés. Les Français sont reconnus et sont très très pointus en termes d'objets connectés. Donc on va leur mettre à disposition un espace de travail avec des machines, avec des ingénieurs, de façon à ce qu'ils puissent développer de manière accélérée l'idée, le projet qu'ils ont sur un objet connecté. Et tout ça va passer finalement par des gros investissements en termes de machines. Des machines...
2,1 millions pour l'instant.
C'est ça, 2,1 millions d'euros qui sont prévus en investissement. Et ce seront donc des machines pour ce que nous on appelle l'étape 1 de prototypage, des grosses machines de prototypage qui vont permettre donc de réaliser des maquettes, des prototypes de l'objet auquel on a pensé. Et puis, on va beaucoup plus loin parce qu'une fois qu'on a un prototype qui fonctionne, on va proposer ensuite aux entreprises, aux startups, aux jeunes pousses, d'aller un cran plus loin et d'industrialiser leur idée, c'est-à-dire de la rendre fabricable à travers la création de dossiers d'industrialisation et à travers aussi la fabrication de pré-séries. Et là, on atteint déjà un degré de professionnalisme, un degré industriel qui est très avancé. Et on va proposer de faire ça au sein d'un même lieu.
Donc on rentre avec une idée, puis on sort avec une pré-série.
On sort avec une pré-série. Et puis dans 2 ans, si tout va bien, le projet, c'est de créer aussi un espace d'intégration où là, on ira carrément jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire qu'on achètera des cartes électroniques, des pièces plastiques, des pièces mécaniques, et on fera l'intégration et la distribution de ces objets connectés. Donc la start-up toute petite ou l'entreprise moyenne qui est rentrée avec une idée géniale ressort quelques mois plus tard, dans le meilleur des cas, avec une production. Et elle va sur le marché et elle peut commencer donc à distribuer son produit.
Et quelles seront les conditions pour ces start-up ou ces jeunes entreprises pour rentrer à la Cité des Objets Connectés ?
Alors, la première condition, c'est donc d'avoir un projet d'objet connecté, puisque la thématique, elle est clairement définie autour de l'objet connecté. Et puis ensuite, il n'y a pas de conditions particulières. Il y a un abonnement mensuel de 300€ par personne qui permet donc d'accéder à tous les équipements de prototypage et de développement de maquettes. Donc, par exemple, vous êtes une petite équipe de 3 personnes. Vous vous inscrivez pour 2 mois pour évaluer une idée, pour voir un petit peu comment se comporte votre projet. Donc, ça va vous coûter 900€ par mois, 1 800€ pour 2 mois. C'est relativement abordable pour accéder à un parc d'équipements de l'ordre de 2 millions d'euros de machines. Et puis ensuite, si votre idée vous semble pertinente, si les financeurs s'intéressent à votre projet, vous pouvez aller plus loin en allant petit à petit vers le prototype définitif, puis vers la pré-série, qui est finalement l'objectif recherché.
Et elle est que pour les entreprises françaises, cette cité, ou est-ce que vous envisagez d'accueillir d'autres entreprises étrangères, par exemple ?
Alors, non, bien sûr que non. On veut ouvrir aux entreprises étrangères. On a une ambition européenne. Donc, on veut rapidement proposer aux entreprises allemandes, italiennes, espagnoles, etc., de nous rejoindre. Ce qu'on pense, c'est que le concept de cité de l'objet connecté est relativement unique et très innovant. Donc on a vraiment l'intention d'attirer chez nous des Européens. Bien sûr, au départ, ce sera des Français en majorité, puis à terme, effectivement, d'élargir.
Et combien d'entreprises vous espérez accueillir dans cette cité ?
Alors, on a un business plan. Donc, on a estimé à travers des études de marché, à travers des évolutions de tendances, que le nombre d'objets connectés qui vont être nécessaires, qui vont être produits dans les 5 ans qui viennent, c'est de l'ordre de 80 milliards d'objets connectés. C'est peut-être exagéré, peut-être pas, mais en tout cas, on parle en dizaines de milliards d'objets connectés. Alors, nous, partant de ces études, on a estimé qu'on aurait environ 150 abonnés, 150 porteurs de projets qui travailleront de manière récurrente sur la cité à l'horizon 2018.
La cité des objets connectés serait implantée, vous me dites si je me trompe, Philippe Ménard, sur l'ancien site de Radio Comptoir de l'Ouest, c'est ça ?
Exactement.
Radio Comptoir de l'Ouest qui avait été placé en redressement judiciaire il y a 2 ans, c'était une entreprise spécialisée dans la vente de produits informatiques et électroménagers. Est-ce que c'est un emplacement symbolique ?
Alors, c'est pas symbolique du tout. Nous, on est des industriels. Hein. On est les actionnaires de la cité d'objets connectés sont des industriels. On a évalué un certain nombre de lieux. Et puis finalement, ce lieu, Radio Comptoir de l'Ouest, nous a paru pertinent en termes de surface, en termes d'aménagement, pour accueillir notre projet. On est pragmatique. On n'a pas regardé la symbolique. On a regardé si on allait pouvoir faire tourner notre projet, si les mètres carrés disponibles étaient suffisants et si l'aménagement nous permettait de transformer ce lieu en village d'artisans, parce que c'est un petit peu ce qu'on voudrait en faire.
Du pratico-pratique alors.
Pratico-pratique, c'est le propre des industriels. Pragmatique.
Philippe Ménard, on va continuer cette discussion. Ce sera juste après Kid Francescoli avec My Body.
I know I made you angry, but you love me. I love the way you kiss me once, boo. Before you leave angry, 'cause I love you. So won't you forgive me now?
20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et ce soir, dans le sous-marin, nous sommes avec Philippe Ménard, directeur de la Cité de l'Objet Connecté. Quentin.
La Cité de l'Objet Connecté, ça s'inscrit donc dans un projet gouvernemental. C'est Axel Lemaire, la secrétaire d'État chargée du numérique, qui a décidé de son implantation à Angers. Le gouvernement a-t-il une présence forte sur la décision prise sur la Cité de l'Objet Connecté, où vous avez tout pouvoir ?
Alors, bien sûr que non. En fait, le pouvoir, si on peut parler de pouvoir, ou la gouvernance pour ce type de projet, elle est détenue par l'ensemble des actionnaires de ce projet qui est privé. Donc en fait, vous avez 18 actionnaires qui se sont positionnés pour piloter ce projet de Cité de l'Objet Connecté. Mais ce qu'il faut bien mentionner, c'est que l'État, la région, l'agglomération angevine, la ville d'Angers sont très supportifs de ce projet. Donc ils sont très près de nous, ils nous aident énormément en nous finançant pour l'amorçage, c'est-à-dire pour le démarrage du projet, en nous aidant pour la partie inauguration. Donc ils sont très présents et très, très utiles et très nécessaires. Mais en ce qui concerne le projet, il est privé, donc il est porté par des actionnaires. Et ce projet, il devra donc à l'horizon 4 ans devenir autonome et assurer sa rentabilité.
Vous parliez de financement à l'instant. Est-ce qu'on peut savoir déjà combien va coûter cette cité ? Donc on a parlé de 2,1 millions d'euros en ce qui concerne les équipements. L'enveloppe totale, elle est de combien ? Le budget total sur cette cité de l'Objet Connecté ?
Alors il faut pas le voir comme étant un centre de coût, mais comme étant un centre de profit.
Mais pour l'instant, il coûte quelque chose quand même. Alors, pour la mise en place.
Voilà, il y a une mise en place. Donc c'est comme quand on crée une entreprise, on investit, on est obligé de mettre de l'argent. Donc les actionnaires de la Cité de l'Objet Connecté apportent de l'argent. Ce sont leurs propres deniers qui vont permettre à l'État et à la région Pays de Loire d'abonder de manière équivalente. Et puis ensuite, une grande partie des choses qui nous sont avancées, telles que le bâtiment, telles que les fonds, seront remboursés par la Cité. Donc en fait, il s'agit d'une action de financement initial. Il ne s'agit pas de quelque chose qui va coûter, qui va être à fond perdu.
Et le financement, il est à hauteur de combien ?
Alors, on a un financement de l'ordre de 3 millions d'euros, dont la moitié est de l'avance remboursable ou du prêt. Donc c'est de l'argent finalement qu'on va nous prêter, que l'on devra rembourser à terme.
Et les 18 actionnaires, alors on ne va pas tous les citer, mais Eolane est un des actionnaires principaux.
Tout à fait.
J'ai lu donc dans le dossier d'Angers Mag, qui a consacré tout un dossier à l'électronique, que Eolane a apporté 700 000 euros, c'est exact ?
Alors Eolane en fait est actionnaire majoritaire, donc l'actionnariat sera de l'ordre de 1,5 million. Donc voilà, ça donne un petit peu l'ordre d'idée de ce qu'apporte Eolane.
Et pour avoir un ordre d'idée de qui sont les actionnaires, est-ce qu'on peut avoir quelques noms d'entreprises ?
Oui, ou je peux vous expliquer un petit peu de manière plus simple comment ils sont répartis. En fait, il y a un premier groupe d'industriels. Au total, il y a 18 actionnaires. Il y a un premier groupe d'industriels qui sont des gens de la plasturgie, de la mécanique, de l'électronique, des bureaux d'études. Donc ce sont finalement les gens qui apportent de l'argent et qui apportent aussi beaucoup d'expertise. Puisque pour la Cité de l'Objet Connecté, la transversalité des métiers, c'est quelque chose d'important, d'avoir tous les métiers sur le même site. Donc il y a les industriels, il y a, je dirais, des grands groupes, donc qui sont finalement des gens dans des télécoms, des gens qui sont dans l'énergie, des gens qui sont dans la santé, et qui s'intéressent de très très près à toutes ces jeunes pousses qui vont venir développer des objets connectés. Et puis il y a aussi des grandes mutuelles d'assurance, qui se sont positionnées, qui ont actionnarisé. Et ces grandes mutuelles d'assurance, elles considèrent que l'objet connecté est un enjeu majeur des prochaines années en termes de santé, en termes de maintien à domicile des personnes âgées, donc de silver economy, etc. Donc ces mutuelles, par exemple, elles se positionneront un petit peu comme des prescripteurs. Elles vont orienter la création et le développement d'objets connectés. Donc vous voyez, c'est un petit peu les trois grands groupes d'actionnaires. des grands groupes d'entreprises, des mutuelles et puis des industriels.
Et en termes d'emploi, qu'est-ce que la cité de l'objet connecté peut apporter à la ville d'Angers ?
Alors, on a une ambition assez forte. La société Cité de l'objet connecté en elle-même va embaucher dès cette année une dizaine de personnes, des gens d'assez haut niveau, des ingénieurs, des spécialistes dans les domaines électroniques, numériques, plasturgie, etc. À l'horizon 2018, on aura une vingtaine de personnes, donc on n'est pas dans des créations de centaines d'emplois. Ce qui est important de noter, c'est tous les emplois qui vont être créés en périphérie de la cité de l'objet connecté, c'est-à-dire qu'un objet connecté qui va se développer, qui va aller jusqu'à son terme, va générer plusieurs dizaines, voire centaines d'emplois en termes de cartes électroniques, en termes de fabrication d'éléments plastiques, etc. Et on estime de manière, je pense, assez modeste, le nombre de créations d'emplois à l'horizon 2018-2019 à environ 500. Donc, ils seront générés, induits par cette activité, par ce lieu de la cité d'objets connectés.
Mais pas forcément sur le territoire angevin.
Non, c'est plutôt régional. Ça peut être aussi français, mais après tout, on est dans une initiative de réindustrialisation du pays, de la France. Donc, voilà, il faut travailler largement, je dirais.
Réinventer le récit industriel de la France, Quentin ?
Et comment concurrencer des pôles de compétitivité en numérique, comme il peut exister dans la Silicon Valley, par exemple ?
Alors, moi, je ne me positionne pas sur un plan concurrentiel. Moi, je pense que le gâteau va grossir. Le nombre d'objets connectés, comme on le disait tout à l'heure, va devenir tellement important que ce qu'il faut, c'est se positionner comme étant, voilà, nous, on veut prendre notre part du marché, notre part du gâteau, et on a tout ce qu'il faut. On a des ingénieurs brillants, on a de l'ambition, on est optimiste. Donc, on y va, et puis on se lance. Et on est tout à fait capable, si on en a la volonté, si on en a l'envie, la passion, on est vraiment capable de concurrencer des Silicon Valley, des Chinois, tout ce qu'on veut, quoi.
La cité de l'objet connecté, Angers, ce sera la première du genre sur le territoire français. Est-ce qu'il est envisageable qu'il y en ait d'autres qui naissent, si celle-ci fonctionne ?
Alors, c'était l'ambition d'Arnaud Montebourg quand il a créé le projet. C'est la nôtre aussi. Donc, on va être un petit peu, je dirais, prudent et modeste. On va déjà faire fonctionner notre cité de l'objet connecté, on va la développer. Mais bien sûr que le modèle, il est décrit, il est documenté de façon précise. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, on le documente. L'objectif, c'est à terme de créer une deuxième cité et peut-être une troisième si le modèle s'avère pertinent.
Et un mois, un gros mois de l'ouverture, quelle pression sur vos épaules, Philippe Ménard, ça va ?
Un petit peu de pression, beaucoup de passion. C'est un projet qui est passionnant, pour te dire, parce que bon, il fait appel à une multitude d'acteurs, il fait appel à de la jeunesse, à de l'expertise. Donc c'est vraiment le mélange des genres. La pression, bien sûr, elle est là parce que c'est aussi une responsabilité importante. On nous confie des moyens, on nous confie de l'argent, on nous fait confiance. Donc, avec mon équipe, on se sent un petit peu sous pression, mais on est vraiment disposé à relever le défi et c'est quelque chose qui est vraiment passionnant.
Dernière question, est-ce que François Hollande va venir couper le ruban lors de l'inauguration ?
Alors, ça, c'est une bonne question. On n'a pas encore sa réponse. Je suis pas, bien sûr, dans les secrets. Ça fait partie des possibilités. Et pour tout vous dire, on attend une réponse dans les jours qui viennent, peut-être aujourd'hui ou demain, sur qui va venir et la date exacte de l'inauguration.
Vous nous passerez un coup de fil ?
On vous le dira.
Merci beaucoup, promis. Philippe Ménard, d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Bonne soirée.
As a matter of fact, the actor's wall ain't got no stones. Just a peacock strut and a rooster crow. You put a line in the sand, said I'm a big man. Yes, I am, cross it if you can. But all it took was a little bit of tenderness, a feminine caress.
De Sean and Star.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
On est mardi, il est 19h30, c'est l'heure de retrouver. On est mercredi.
Mercredi, c'est pas du tout mardi.
C'est l'heure de retrouver Pierre-Antoine quand même. Salut Pierre-Antoine.
Salut.
Tu décortiques les chiffres et passes à la moulinette les propos de nos hommes et femmes politiques. Hillary Clinton a officialisé sa candidature pour les primaires démocrates en vue des élections présidentielles de 2016, dimanche soir, via une courte vidéo postée sur Internet. Depuis, de nombreux hommes politiques français lui ont affiché son soutien.
Manuel Valls, Nicolas Sarkozy, Marisol Touraine, Christiane Taubira et d'autres encore, ces hommes et femmes politiques se sont tous fendus d'un gazouillis pour féliciter l'ancienne première dame. Pas Bruno Le Maire, le député de l'heure était l'invité de Tous Politiques sur France Inter dimanche soir. Et oui, il y a encore quelques émissions, même si c'est plutôt rare en ce moment sur Radio France. Écoutez ce qu'il dit.
Ensuite, Hillary Clinton est effectivement la grande favorite de la prochaine élection présidentielle aux États-Unis. Mais l'histoire montre, aux États-Unis et ailleurs, que ce n'est pas toujours le favori qui gagne.
Un peu prophétique, Bruno Le Maire.
Eh bien, sans doute, Tiffaine, mais il a des raisons de se rassurer. Tournons-nous d'abord rapidement vers les États-Unis. Là-bas, la plupart des sondages réalisés avant les élections ont vu juste. Ce fut le cas en 2008 et en 2012 pour Barack Obama, mais aussi pour George Bush lors des deux élections précédentes, même si les élections de 2000 furent extrêmement serrées entre Al Gore et Bush Jr., la Floride penchant pour ce dernier à seulement 537 voix. L'AFP avançait d'ailleurs en 2008 qu'il fallait remonter à 1948 pour qu'une élection américaine fasse mentir les sondages, les Américains préférant alors le démocrate Harry Truman au candidat républicain Thomas Dewey.
Et en France alors ?
Et bien là, Bruno Le Maire a plutôt raison. Sous la 5ème République, le candidat favori, donné gagnant par les sondages à 6 mois, a en réalité perdu une fois sur deux, comme le soulignait en 2012 Le Figaro. Si en 2012, François Hollande, favori dans les sondages, a bel et bien gagné les élections, en 2007, ce fut une autre histoire. Ségolène Royal, crédité à 31% des intentions de vote au premier tour, est tombée en réalité à 25 points contre 30 pour Nicolas Sarkozy, un écart qu'elle ne rattrapera pas pendant l'entre-deux-tours. Remontons encore un peu dans le temps, 1981, Valéry Giscard d'Estaing brigue un second mandat. 6 mois avant les élections, on lui prête 17 points d'avance sur le candidat socialiste au premier tour, 18 au second. On connaît le résultat. François Mitterrand, élu devançant de 3 points VGE au second tour. Valéry Giscard d'Estaing qui marquera alors l'histoire de l'audiovisuel public avec son fameux
« Au revoir ».
Du côté des gagnants, on trouve Charles de Gaulle.
Oui, le grand monsieur faisait face en 1965 à François Mitterrand. Les sondages annonçaient un plébiscite pour de Gaulle avec pas moins de 68% des voix au premier tour contre 23% pour le candidat socialiste. De Gaulle élu au premier tour. Oui, mais non, l'écart entre les deux candidats est plus faible qu'estimé. Le duel se continuera au second tour, se soldant tout de même par la victoire de la droite.
Enfin, parfois les sondages prévoient le bon gagnant.
Mais le mauvais challenger, ce fut le cas en 2002 lorsqu'en déjouant toutes les prédictions, Jean-Marie Le Pen se qualifie au second tour, éjectant ainsi Lionel Jospin qui se retirera de la vie politique, du moins pour un temps. Si les élections de 2017 suivent la loi des 1 sur 2, le candidat favori perdra les élections en 2017. Reste à savoir qui prendra sa place.
Merci Pierre-Antoine.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonjour Charles Pringuet.
Bonjour.
Vous êtes un artiste breton puisque vous êtes né à Vannes et d'ailleurs vous travaillez et vivez toujours en Bretagne puisque vous avez ouvert une galerie à Saint-Goustan dans le Morbihan, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Vous êtes actuellement en résidence à Saint-Mathurin-sur-Loire, pas si loin d'Angers. Comment est-ce que vous êtes retrouvé dans le Maine-et-Loire ?
Alors en fait, c'est donc la coprésidente de l'association de la galerie où je suis en ce moment en résidence qui est passée me voir en fait donc dans ma galerie. Et qui m'a proposé donc une résidence de 4 semaines, plus une intervention dans une école.
Alors comment est-ce que vous avez ouvert votre propre galerie à Saint-Goustan ? Ça fait combien de temps que vous l'avez ouverte dans le Morbihan ?
Alors en fait celle-là ça fait 3 ans maintenant, et j'ai commencé un peu plus tôt, j'avais commencé donc en 2007 pour la première fois, donc j'ai loué un espace pendant une saison. Et je suis retourné donc ensuite, c'était en 2011, je crois, pardon. Et donc depuis, je suis installé là-bas, en fait.
Voilà. Ça représente quoi pour un artiste d'avoir une résidence comme ça ? Vous me disiez au micro que ça faisait 5 semaines que vous étiez à Saint-Mathurin.
Ouais.
C'est fréquent, les résidences, pour les artistes peintres comme vous ?
Bah, moi, c'est la première fois, donc après, je ne sais pas si c'est si fréquent que ça, mais je sais que ça se pratique quand même pas mal. Donc après, moi, c'est comme je vous dis, on m'a déjà proposé une fois, mais c'était trop loin de chez moi. Donc du coup, j'avais refusé. Mais non, ça se fait, je pense, ouais, assez régulièrement quand même.
On va parler de votre travail. Mm-hmm. Alors à la radio, ça va être compliqué, mais on va faire un effort. On va tous faire un effort pour l'imaginer.
Ouais.
On pourrait situer votre œuvre entre le street art et les compositions un peu plus industrielles. Comment est-ce que vous le décririez et comment est-ce qu'on pourrait le visualiser ?
Oui, alors moi, c'est vrai que j'ai deux styles, on va dire, assez différents. Il y a un côté, il y a un style, on va dire, qui est effectivement plus orienté street art. Où, donc c'est vrai que c'est, on a ce ressenti-là quand on est devant mes œuvres, parce que je travaille beaucoup en fait avec la bombe. Pardon, mais en fait, il y a toute une multitude de techniques qui sont associées ensemble qu'on voit pas forcément du premier coup d'œil. Donc en fait, je travaille aussi bien sur des textures que sur des techniques, on va dire, plus dessinées. Donc ça peut être aussi bien au couteau, au pinceau. Je travaille aussi à la bombe, donc au Posca. Il y a un petit peu de pastel gras aussi, des fois. Donc c'est vraiment un mélange de plusieurs techniques et un mélange de plusieurs styles aussi, on pourrait dire, en fait, qui constitue mon style, en fait. C'est ça qui est assez, assez spécial. Mais on a plusieurs ressentis quand on est devant mes œuvres qui peuvent être contradictoires. Et c'est ça qui est intéressant aussi de venir chercher, de venir essayer de comprendre. Après, il n'y a pas forcément de façon de comprendre mes œuvres, parce que chacun a sa propre façon de voir, en fait, les choses. Et vu que c'est pour une partie figurative et pour, on va dire, 30% de la toile, c'est figuratif, et le reste, c'est de l'abstraction, donc c'est vrai qu'on peut se projeter assez facilement, quoi. Et pour mon deuxième style, un peu plus industriel, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu industriel.
Plus métallique.
Voilà, tout à fait. En fait, je travaille sur des toiles et il y a plusieurs formats de toiles que je viens associer ensemble pour former un peu une mosaïque. Et sur ces toiles, je viens ajouter des fois en fait des plaques de métal que je viens travailler un peu à mi-chemin entre gravure et peinture. Et donc en fait, c'est ça qui donne le côté un peu industriel, le côté un peu, on va dire, naturel aussi, parce que c'est des couleurs qui sont assez, assez métallisées. Donc des fois, ça peut faire penser à de la terre ou à de la rouille. Forcément, c'est un peu... voilà, le métal retourne à la terre, donc c'est un peu voilà, des couleurs beaucoup plus douces, un travail aussi plus sobre. Donc après, ça dépend vraiment du ressenti de chacun. Il y en a qui seront intéressés plus par le côté street art, le côté très dynamique. Avec, je travaille beaucoup la couleur aussi, donc c'est vrai qu'il y a tout un travail sur la couleur en fait, qui permet en fait, aux gens de ressentir les œuvres. Moi, je les ressens de façon on va dire, assez bénéfique, avec... un côté très dynamique et très joyeux, mais après c'est vrai qu'il faut voir ce que je fais pour comprendre. C'est sûr que c'est pas évident comme ça d'expliquer en fait à la voix quoi.
Voilà. Vous dites être influencé par Picasso, Basquiat, Soulages. Qu'est-ce qui relie ces trois artistes qui qui sont pas forcément associés de principe quoi.
Non, il y en a d'autres aussi hein, qui m'influencent. Il y en a beaucoup. Hein, ça, il peut y avoir aussi Pollock. Il y en a plein en fait. Moi, je prends un peu. En fait, comme je vous disais, j'ai plusieurs techniques qui sont associées ensemble. Donc voilà, je vais travailler un peu de projection des fois, donc ça pourra faire penser à Pollock. Il y a beaucoup de lettres aussi. Donc Basquiat a travaillé beaucoup sur l'écriture aussi. Donc on peut trouver des petites références, mais j'ai pas de Picasso. J'adore ce qu'il faisait. Donc après, c'est plutôt un côté voilà un ressenti. Je me compare pas du tout à ces artistes-là qui sont des grands, mais. Après, moi, le lien entre tous, il n'y en a pas forcément. Après, c'est juste mon propre ressenti, peut-être plus au niveau de mes compositions industrielles et Soulages aussi, travailler sur plusieurs formats. Donc, vu que je travaille beaucoup le noir dans un premier temps, il y avait un côté qui me faisait penser un peu à Soulages, mais dans une moindre mesure, vraiment. Voilà. Après, c'est...
Où est-ce que vous puisez votre inspiration, Charles Pringuet? Est-ce que c'est dans le Morbihan où vous avez décidé de rester? Comment est-ce que vous démarrez?
Comment est-ce que je démarre une œuvre?
Ouais.
En fait, c'est jamais vraiment les mêmes états d'esprit. Donc, je commence sur une œuvre, bon, forcément elle est blanche. Je travaille dans un premier temps les matières. En fait, je fais des textures avec une pâte. Ensuite, je travaille, bon, comme je vous disais, le noir et le blanc. Hein, c'est ma base. Je travaille toutes les nuances de gris sur l'œuvre. Et ensuite, j'ajoute la couleur et toutes les autres techniques. Donc après, il n'y a pas forcément d'ordre précis. Ça vient, il y a, en fait, on va dire que j'ai des visuels en tête que je veux reproduire, avec plus ou moins de fidélité par rapport à ce que j'imaginais. Maintenant, c'est pas forcément hyper précis non plus. Je sais ce que je veux, je sais comment je vais y arriver, comment je vais le faire. Et sur le moment, sur l'instant, il y a aussi du feeling. Voilà, il y a beaucoup de feeling aussi. Et c'est ça qui fait aussi le côté un peu, peut-être, un peu, on pourrait pas dire magique, mais bon, c'est le côté un peu, voilà, qui sort du lot, on pourrait dire, quoi. Voilà.
Ça, c'est beaucoup moins artistique, ce que je vais vous poser comme question. Mais comment est-ce qu'on fait pour vivre de son art? Vous avez 30 ans, 31 ans, peut-être.
30 ans, ouais.
Comment est-ce qu'on fait pour vivre de sa passion, de son art, de sa créativité quand on est artiste peintre?
C'est comme pour tout métier, je pense. Il faut savoir investir. Donc, s'investir personnellement, investir de l'argent aussi, forcément. Et avoir confiance. Et ça, je pense que pour plein de métiers, la confiance, c'est primordial. Et l'envie aussi, parce que bon, c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas évident maintenant. Il faut se donner les moyens. Donc, c'est-à-dire, voilà, moi, j'expose dans des salons, je tourne beaucoup, je vais beaucoup sur Paris, en province aussi. Et puis, donc, j'ai ma galerie personnelle aussi, donc à Saint-Goustan, à côté de Vannes. Et donc c'est vrai qu'il faut savoir en fait se montrer au maximum. Donc maintenant c'est vrai qu'il y a aussi internet qui permet de se montrer plus facilement, plus largement, mais bon, après c'est sur le net, donc on est derrière un écran, on n'a pas le ressenti, on a une image qui fait 10 cm par 10 alors que la toile elle fait 2 mètres sur 2 ou... Donc c'est sûr qu'on n'a pas le même ressenti. Maintenant les gens qui ont vu mon travail et qui retournent sur internet arrivent mieux à ressentir les œuvres. Tandis que l'inverse, c'est peut-être un peu plus délicat. Bon, après, ça dépend. Hein. Ça dépend des gens, ça dépend vraiment des goûts. Et donc ça, après, c'est chacun midi à sa porte, quoi, on peut dire. Voilà.
On a fêté nos 10 ans il n'y a pas très longtemps et on était à l'école supérieure des Beaux-Arts où on a rencontré des professeurs et des élèves et on leur a demandé en quoi une école pouvait aider un artiste à se former, il pouvait l'aider dans son travail. Vous êtes titulaire d'un brevet des métiers d'art si je ne me trompe pas.
Oui, tout à fait.
Et je vous pose la même question, en quoi est-ce qu'une formation dans un domaine aussi large que l'art en fait vous a aidé dans votre parcours?
Alors j'ai fait plusieurs formations, j'en ai fait une autre aussi sur Nantes, dans une école d'art graphique en fait. Donc pour revenir à la question, c'est vrai qu'on a, ils nous donnent des techniques, donc des outils pour pouvoir créer ensuite par la suite. Donc c'est vrai que les écoles d'art, que ce soit les Beaux-Arts ou des écoles privées, on a une mouvance qui se fait aussi dans les classes, parce que même si on n'arrive pas à faire quelque chose ou qu'on n'a pas d'idée, il y a 30 idées dans la classe. Donc en fait, ça rebondit et je pense que c'est important de... À mon avis, on apprend presque autant des élèves dans ces écoles-là que des professeurs, en fait. Donc c'est là où c'est intéressant et puis de partager, forcément. De l'art, c'est beaucoup de partage. Moi, je partage ce que je fais en le montrant à qui veut le voir. Donc après, c'est pas forcément évident hein, de montrer ce qu'on fait. Moi, ça n'a pas trop posé de problème. Mais bon, il y en a pour qui c'est compliqué. Et je pense que les écoles, c'est bien pour ça, quoi. C'est que ça donne une multitude de techniques, de savoir-faire qui permettent après de créer, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Ces écoles-là sont intéressantes pour ça, c'est sûr. Même si j'ai pas fait les Beaux-Arts.
Dans le cadre de cette résidence et de cette exposition à Saint-Mathurin, vous avez notamment encadré un atelier avec des élèves de primaire.
Oui, maternelle et primaire.
Maternelle et primaire, qui vont d'ailleurs aussi présenter leurs travaux, je crois, durant le vernissage qui aura lieu le 25 avril.
Tout à fait. Ouais.
Comment ça s'est passé, cet atelier ? Vous aviez déjà travaillé avec des enfants aussi jeunes ?
J'ai travaillé une fois avant avec des enfants jeunes. C'est pareil, c'était il y a longtemps, j'étais en 2008, je crois. Donc c'était dans une école primaire, à Séné, pas loin de Vannes aussi. C'était avec des petites sections. Donc il y avait une trentaine de petites sections, il me semble. Et je les ai fait travailler plutôt sur le style, comme je disais, en composition, en mosaïque. Donc ils avaient chacun une petite toile de 20 par 20. Je leur faisais travailler des matières et après des couleurs dessus. Je leur faisais mélanger les couleurs pour qu'il y ait une harmonisation globale, un peu, on va dire. Et j'ai rassemblé l'ensemble des œuvres après sur un seul format. Et on avait donc une mosaïque réalisée par les enfants. Puis c'était sympa, ils s'étaient bien amusés. Et tout le monde était content, donc ça c'est important. Puis le rendu était bien, donc ça c'était important aussi. Et là par contre, donc là je suis resté donc 4 semaines à Saint-Mathurin. Avec donc toutes les classes de cette école, donc de la petite section au CM2. Donc en fait pour les grands, pour le cycle 3 en fait, donc CE2, CM1, CM2, ils ont travaillé sur une fresque. Donc ils avaient un préau en fait avec tout un mur en parpaing qui était là en parpaing. Donc j'avais donc 3 classes qui travaillaient sur ce projet là. Donc je leur ai fait travailler le même principe que pour les toiles, donc pour les petits, qui eux en fait travaillaient à 3 sur une toile, donc toutes les autres classes. Donc il y avait plein de petits groupes de 3 qui travaillaient chacun dans son petit coin sur la toile, et puis en fait ils avaient donc une œuvre commune en collaboration. Donc c'est ça qui est intéressant, d'avoir un côté personnel sur l'œuvre, mélanger les styles, un peu comme je fais en fait sur mes toiles, mais mélanger les styles enfantins en fait. Donc c'est un peu le même principe que ce que j'expliquais avant. Je leur ai fait travailler d'abord des matières, aussi bien sur le mur que sur les toiles. Ensuite je leur ai fait travailler le noir et le blanc. Ensuite, est venu les pastels gras, donc ils dessinaient ce qu'ils avaient envie de dessiner. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont une liberté de création qui est presque totale. Je leur donne juste des règles, voilà, de ne pas dépasser cette zone ou cette zone, mais après, ils font les dessins qu'ils veulent. Donc il y a un côté assez intéressant de pouvoir les laisser libres, en fait. Voilà.
Et lors de cette exposition qu'on pourra voir jusqu'au 17 mai à l'espace À vous de voir à Saint-Mathurin, il y aura des œuvres, j'imagine, que vous avez créées là, ces 5 dernières semaines.
Ouais, il y en aura 7. 7 toiles donc, qui seront exposées en bas, normalement. Donc c'est sur 2 étages, à Garry. Et tout l'étage du haut sera pour donc, les enfants. Avec, je crois qu'il y a 39 toiles, 39-40 toiles. Donc ça fait quand même une belle expo. Et c'est sympa parce qu'ils ont quand même bien bossé, et surtout ce qui est important pour moi c'est qu'ils prennent vraiment du plaisir quand ils travaillent avec moi, quand ils sont en train de créer, et donc que les enfants soient contents, que les enseignants aussi soient contents, et qu'ils aient appris, on va dire, et qu'ils aient vu des nouvelles techniques, des nouvelles choses en fait. C'est ça que le plus important. Après le rendu final de l'œuvre est peut-être moins important. Ce qui me plaît vraiment, c'est qu'ils ont vraiment apprécié, en fait. Voilà.
Alors, l'expo est donc à voir à partir de samedi 25 avril jusqu'au 17 mai à l'espace À vous de voir. Est-ce qu'il y a d'autres expos de prévus, Charles Pringuet, à part à Saint-Goustan, forcément, où on vous retrouve, la galerie ?
Ouais, je suis à Saint-Goustan, donc tout l'été, jusque fin septembre. Après, normalement, je vais faire le Grand Marché d'Art Contemporain à Paris, donc c'est place de la Bastille. Et art shopping aussi au Carrousel du Louvre. Donc ça, c'est en septembre les deux, je crois.
Ouais. Merci beaucoup, Charles Pringuet, d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie.
try another way, then I'll never know. So I don't care anymore.
But you say no way.
I don't care anymore.
Oh, you didn't need me.
There's a drawer in a room in a house that's calling your name. I don't care.
C'était Ghost Poet avec X Marks the Spot.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et ce soir, on retrouve Julia pour son premier billet d'humeur sous-marin. Salut Julia.
Bonjour.
Booba a encore frappé, cette fois-ci, non pas en sortant un nouvel album, mais en s'exprimant sur les attentats survenus à Charlie Hebdo. « Quand on joue avec le feu, on se brûle », a-t-il déclaré mardi dans une interview pour Le Parisien. À choisir, on aurait peut-être préféré la sortie d'un album.
Le caïd de Boulogne-Billancourt, auteur notamment de Numéro 10 et Pitbull, s'est une nouvelle fois attiré les foudres avec ses déclarations choc. Avec le tact qu'on lui connaît, il a affirmé, je cite, « être étonné que ça ne soit pas passé avant et comprendre aussi bien les « je suis Charlie » que les « je ne suis pas Charlie ». Dit Booba, comprendre les « je ne suis pas Charlie », ce n'est pas en partie cautionner le passage à l'acte des assassins, d'entre autres Charb, Tinius et Volinsky ? Comparant les terroristes à des requins blancs, B2O renchérit. Si tu habites en Australie dans une plage infestée de requins blancs et qu'on te le dit, que tu le sais et que tu continues à te baigner tous les jours, le jour où tu te fais croquer par un requin blanc, il faut assumer. Dans cette même logique, Booba, si un beau jour tu te fais agresser par une ligue féministe, il faudra assumer. Ces propos et cette comparaison déplacée ont du mal à passer pour Patrick Peloux, le médecin urgentiste et chroniqueur du journal satirique. Booba ferait mieux d'aller chercher l'intelligence plutôt que de chercher à justifier les terroristes, a-t-il déploré. Au moins là, c'est sûr, le temps qu'il trouve, nos oreilles seront épargnées pendant un long moment.
Et alors Julia, est-ce que Booba va être sanctionné pour ses propos ?
C'est en tout cas ce que suggère le député UMP Éric Ciotti. Pour lui, ces déclarations constituent, je cite, « une forme d'apologie du terrorisme ». Ah, ça nous rappelle un certain Dieudonné et son célèbre « Je me sens Charlie Koulibaly ». Les deux artistes semblent donc avoir des opinions communes sur ce sujet. Pour rappel, l'ex-humoriste encourt lui jusqu'à 30 000 euros d'amende. Thierry Soulaire, le député UMP de Boulogne-Billancourt, fief du rappeur, déplore lui aussi les paroles de Booba. « Je regrette que ce garçon, qui a du talent, ça on en doute, fasse des clins d'œil et du marketing alors qu'il n'habite plus la France », a-t-il déclaré sur iTélé. C'est vrai qu'on avait presque oublié que le duc de Boulogne s'était exilé aux États-Unis depuis quelques années. « Je condamne bien sûr ces propos qui sont absolument odieux », poursuit le député Thierry Soulaire. Nous, ce qu'on aurait tendance à déplorer, c'est qu'il puisse dire que Booba a du talent. Booba a donc visiblement encore une fois perdu une occasion de se taire, puisque son coup marketing tombe à l'eau. Désormais, vous aurez l'occasion non plus de critiquer Booba pour ses morceaux, mais également pour ses déclarations aberrantes.
Merci Julia.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
La perle de ce soir, c'est la suite du festival Cirque au Quai avec ce soir dès 21h les 6 acrobates de la compagnie La Meute. On termine cette émission avec l'éternelle bulle sonore, un moment campusien à écouter ou à réécouter. Hier soir, c'était la dernière de Ciné Qua Non de la saison. Nos cinéphiles ont choisi de débattre sur Éric Rohmer. Étrange.
Bon, reprenons le cours de notre impitoyable duel sur Manu chez Maud. Ryan-san, qu'en avez-vous pensé ?
Bah écoutez, moi j'étais un peu comme Tintin, en fait. Bon, moi je suis pas très très cinéma français, donc je suis parti dans l'idée de le défoncer. Moi je l'ai regardé, je dis je vais le défoncer ce film-là. Quoi. Et le problème, c'est que c'est bien passé, quoi. J'ai été déçu de pas pouvoir le défoncer, quoi. C'est passé comme. Au début, je me suis dit, bon allez, j'avais pas trop de temps, j'ai dit, bon allez, je regarde qu'une heure, ensuite je regarderai plus tard. Et ben en fait, j'ai tout fini, quoi. Enfin, du coup, c'est ça qui m'a dérangé. Voilà, c'est ça, quoi. Mais enfin, je rejoins l'avis de Tintin, quoi. C'est quelque chose qui se regarde vraiment. Comme un cheveu sur la soupe, non ? On dit pas ça ?
Non.
Non.
Comme un. Ouais. Comme un. Une lettre à la poste.
Comme une lettre à la poste, pardon.
Mork, vous qui venez d'une autre planète, peut-être que vous pouvez nous éclairer sur ce qu'on ressent face à un Rohmer quand on n'est pas des blancs français.
Bah, j'étais totalement bouleversée, mais je suis totalement d'accord avec vous. Il y a vraiment une réelle osmose qui se passe quand on regarde ce film. On est vraiment. On a envie de participer aux discussions. On a envie de savoir. Non, vraiment, je. Bien, bien, bravo.
D'accord. Bah, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein.
Bah, ouais, mais.
Enfin,
bon.
Ouais,
mais après, bravo à Éric Rohmer. Ouais, allez, bravo. On applaudit Éric Rohmer.
Et dans un instant dès 20h, vous retrouvez les geeks de Pat Panic. Merci pour ce soir à Pierre-Antoine, à Julia, à Quentin. Merci à David pour la réalisation. Nous, on se retrouve demain à 19h. On recevra les ambassadeurs des villes jumelées avec Angers. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.